Je voulais commencer en vous disant que j'étais très content de vous retrouver après le fait que le 31 août, j'ai été arrêté soudainement. Et c'est bien sûr dans l'après-coup de cet arrêt que je prends la parole, parce que je pense que, quels que soient les faits en eux-mêmes, c'est quelque chose que je ne peux pas ne pas recevoir comme quelque chose qui renvoie au discours. Alors avant que ça arrive, j'avais déjà trouvé le titre du séminaire. Et ce que je voudrais essayer aujourd'hui de vous proposer, c'est de partir de l'interrogation, qu'est-ce que le savoir, pour autant que justement le savoir tel que l'expérience clinique, l'expérience du transfert peut nous le faire rencontrer, précisément peut, à certains moments, apparaître sur la scène pour autant qu'il y ait un arrêt. C'est le béaba de la découverte freudienne à partir de quelque chose que Freud va nommer la sidération. Mais cette dimension même de l'arrêt est importante. Pour autant que c'est une façon d'envisager ce qu'il peut advenir de nouveau, c'est à la fois la pire et la meilleure des choses, on pourrait dire. Donc, parler du savoir dans cette perspective-là, évidemment, ça nous ramène à la découverte de Freud, bien sûr, et à la façon dont lui-même a pu être à un moment ou à un autre dans son expérience de psychanalyste arrêté, et la façon dont il nous transmet qu'il a ou non répondu à ce qui s'est présenté au moment de cet arrêt, puisque toute la question est là. C'est-à-dire qu'on pourrait aller à grande vitesse, là, c'est le cas de le dire, et dire ben, l'arrêt c'est simple, c'est l'apparition du réel. Bon, c'est vrai. Et alors ? Ce qui est beaucoup plus important, c'est de partir de cette question de l'apparition d'un savoir qui, alors c'est là où on en est dans notre perspective actuelle, qui peut renouveler la découverte freudienne. C'est-à-dire que tant que nous sommes dans ce que Freud a déjà dit, d'une façon ou d'une autre, ou dans ce que Lacan a déjà dit d'une façon ou d'une autre, on est dans une perspective où justement quelque chose ne peut pas arriver de nouveau. Et pourtant, toute la question est celle de savoir comment il est possible que du nouveau advienne. Ce qui est important dans une cure, dans le transfert, et c'est ça qui nous guide, c'est cette apparition de quelque chose de nouveau. Alors je voudrais, dans cette perspective-là, ce soir, donner quelques limites, comme ça, à cette dimension du savoir. Et puis après, je vais m'avancer dans une rencontre, évidemment, qui est une fiction, qui est celle de Condorcet et du psychanalyste. Puisque je voudrais transmettre ce à quoi je me suis coltiné, essayé, c'est pas à faire un discours sur Condorcet. On trouve tout à fait bien ça dans un bouquin notamment de Robert et Elisabeth Badinter, mais si on ne fait que répéter ce que d'autres disent, même en y mettant un peu de la sauce, on est à mon avis justement en dehors de cette dimension que j'essaie d'emblée de présenter ce soir, qui est, qu'est-ce qui peut faire qu'à un moment, un être parlant peut rencontrer quelque chose, sans le savoir, évidemment, sans le savoir, et qu'il puisse répondre à quelque chose dont il n'a aucune idée. Puisque c'est ça, c'est une façon d'aborder la question du savoir dans le réel dont parle Lacan. Alors, quelques mots encore sur cette perspective du savoir, pour l'introduire d'emblée avec Freud, non pas tellement dans ce qu'il a écrit dans ses articles, mais beaucoup plus dans ce qu'il nous transmet. Et là, je vous propose de nous situer fin 1892, quand est écrit par Freud, on pense que c'est par Freud, c'est pas sûr du tout, c'est peut-être par Breuer, vous savez, le petit article là sur la façon dont fonctionne le refoulement, et qui est au début des études sur l'hystérie, et sur la façon dont fonctionne le refoulement, et d'autre part, comment la névrose hystérique est établie. Je retiens qu'une chose. Pourquoi ? Parce que la seule chose qui m'intéresse, ce n'est pas la sauce qui est dite, c'est le fait que les traducteurs habituels ont oublié un tréma sur un mot. On a traduit Krankung au lieu de Kränkung. Or, Krankung, Krank, c'est à voir avec le malade, et Kränkung, c'est la mise à mort. Et au moment où Freud, en fait, décrit ou Breuer, on ne sait pas lequel est finalement le biographe de Breuer, dit que c'est Breuer qui a écrit cet article, c'est le dernier trimestre de 1892. Je prends ça parce que justement là il y a un écrit, je dirais, pour autant que le umlaut, le tréma en allemand est oublié par les traducteurs, et du coup ça change tout, puisque ce qui est rencontré et, je dirais, qui n'est pas pris en compte, mais qui va être cause du symptôme, c'est le fait que Kränkung, la mortification, l'expérience de la mortification, et non pas, je ne sais plus exactement, parce que j'ai pensé à ça aujourd'hui, je n'avais pas mon bouquin qui est à Montbéliard, je ne sais plus exactement quelle est la traduction, on va dire officielle, mais ce qu'il en est de cette apparition d'une mise à mort, c'est-à-dire d'une mortification, c'est-à-dire quelque chose qui a à voir avec sans doute la pulsion de mort, elle est déjà là, et ce qui va permettre que, évidemment, il n'y ait pas ce recul qu'est le symptôme. Donc, vous voyez, quand il y a cette dimension de l'arrêt dans le discours, il est possible de reculer, mais il est aussi possible qu'une réponse puisse apparaître. Et on pourrait dire que dès ce moment-là, notamment, Freud est déjà en train d'être sur la route de, bien sûr, ce qu'il va décrire après du côté du mode esprit, mais sur la route de la pulsion de mort, à ceci près que la façon dont il articule la pulsion de mort, on en a déjà beaucoup parlé, il articule toujours dans un dualisme par rapport à la pulsion de vie, alors que toute la question, c'est comment la mortification va en quelque sorte donner naissance à un topos qui est à l'origine de la vie. Et évidemment, c'est quelque chose qui est étrange, que je vous dis, parce que évidemment, c'est quelque chose auquel j'ai pensé pendant les quelques jours où j'étais immobilisé, mais pas dans ma tête du tout. Vous savez que dès qu'il y a une fracture osseuse, il y a des macrophages qui viennent faire la place, c'est-à-dire bouffer les résidus pour que les ostéoclastes, les macrophages, pour que les ostéoblastes construisent de l'os. C'est-à-dire qu'il y a, sans qu'on s'en rende compte, en permanence dans ce qui se passe au niveau de notre corps, il y a quelque chose qui se développe, qui est en permanence complètement invisible, et que la science peut attester comme cette articulation de la mort et de la vie. C'est au sein même du fonctionnement cellulaire. Alors bien sûr, on n'en était peut-être pas là au moment quand Freud a pu dire quelque chose sur ces données, Mais c'est assez étonnant, parce qu'on n'y pense pas, de savoir que les cellules de notre corps en permanence à la fois disparaissent et il y en a d'autres qui réapparaissent, et que ce processus de vie et de mort est au cœur même de la vie. Et vous savez, les théories vis-à-vis du cancer, justement, entre autres, ce serait que des cellules qui sont destinées à mourir ne meurent plus, et que c'est celle-là qui entraînerait ce bouleversement extraordinaire qui peut être cette prolifération pathologique. Je reviens donc à cette dimension de Kränkung, de mortification, qui apparaît sous la plume de Freud ou de Boehm, enfin qui apparaît très tôt, qui peut être considéré après tout peut-être comme un lapsus, on ne sait pas du tout, mais enfin, il y a un écrit, il y a quelque chose qui est écrit là. Hein. C'est pour ça que je vous ai écrit là-dessus, son écrit, c'est un site que je viens de faire, à partir de tout le travail que l'on peut faire autour de cette question-là. Eh bien, il y a un écrit particulier, et comment, en fait, à la même période, quelque chose de cet ordre a lieu dans le cabinet de Freud. Il reçoit Lucière. Lucière, c'est une gouvernante anglaise qui est venue le consulter parce qu'elle a des symptômes. Après tout, ce n'est pas le problème. Disons qu'elle est dépressive, qu'elle a une rhinite purulente, enfin, qu'elle a des manifestations. Et avec Lucière, Freud va retrouver progressivement ce qui est à l'origine du symptôme, une scène particulière, notamment. Je ne vais pas trop détailler ça, je voudrais arriver au point du discours qui nous intéresse. Et il retrouve donc une scène particulière où finalement Freud en est au moment suivant. Ce qui est à l'origine du symptôme, c'est un conflit interne. Et il retrouve que le conflit, c'est entre notamment une promesse qu'a faite Lucière à la mère des enfants qu'elle garde, selon laquelle elle s'occuperait des enfants, et le fait qu'à un moment, elle reçoit de sa mère une lettre qui lui dit que sa mère est malade et qu'elle doit rentrer en Angleterre. Donc le conflit, il est là, dans cette difficulté-là. Donc ça, c'est un premier conflit. Il y en a d'autres qui vont apparaître progressivement. Alors qu'elle parle et qu'on explique les symptômes dans cette historique, on va dire, Freud, on voit bien comment ça peut se mettre en place. Freud a une idée, c'est l'idée du père. C'est l'idée du père. Alors il va y avoir la séduction du père, l'amour du père. Vous savez, c'est toute la période où il n'a pas encore fait le rêve concernant la mort de son propre père, après la mort de son propre père. Et il lâche quelque chose, c'est-à-dire il a dû bien organiser, ce serait tout à fait intéressant. On pourrait dire, évidemment, d'avoir les voix, à mon avis, ça m'intéresserait beaucoup, de savoir ce qui se dit et comment ça se dit, et ce qu'on entend dans les voix. Et je pense qu'elle doit être sur le divan, donc même si... de rencontrer les regards des deux personnes, parce que je pense que ça en dit beaucoup plus que ce qui est écrit justement par Freud. Enfin, quoi qu'il en soit, Freud lui dit, écoutez, cher ami... Je pense que ce qui est à l'origine de votre symptôme, ce n'est pas ce que vous pensez, c'est le fait que vous aimez, mais que vous ne pouvez pas accepter, puisque c'est ça le refoulement, qui est à l'origine du refoulement, vous aimez cet homme particulier qui est le père des enfants. Et alors, il faut bien suivre là on est dans le discours, on est vraiment dans le discours au sens de Lacan, immédiatement, elle lui répond, « Ah oui, je le sais, ça je le sais. » Et Freud... immédiatement aussi lui répond, ben, puisque vous le savez, pourquoi est-ce que vous ne me l'avez pas dit ? Alors, je trouve que dans cette réplique particulière, il y a ce que je voudrais essayer d'aborder ce soir et les autres soirs, c'est-à-dire qu'en fait, quand Freud élabore, c'est nouveau évidemment à ce moment-là, tout ce savoir qu'il est là pour erraten, pour deviner et pour donner à son patient, à savoir cet amour, l'amour évidemment de cet homme qui est un déplacement de l'amour du père, il est tout à fait dans un travail de pensée. Et évidemment, ce qui va l'étonner, c'est qu'elle le sache. Autrement dit, et comme il ne supporte pas Ça, c'est la première lecture. Qu'elle ne lui dise pas, il lui dit, mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Alors, nous sommes là devant un savoir, celui qui est écrit dans le compte-rendu, qui est un savoir, on pourrait dire, à consistance imaginaire, un savoir limité, défini, organisé, on comprend. Et l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que, en fait, dans l'échange immédiat qui a lieu, notamment dans la réponse de Freud, Freud, à quoi répond-il? Est-ce qu'il répond vraiment à ce que vient de lui dire Lucière, qui en fait lui dit quoi? Lui laisse supposer qu'il y a un autre savoir que celui qu'il vient de lui dire. Je le sais déjà, ça suppose, mais oui, je le sais déjà, ça. Il y a un, autrement dit, il y a un autre savoir que ce savoir-là. Et en fait, ça va s'arrêter là-dessus, puisque Freud immédiatement recouvre ce qu'elle donne à entendre, en quelque sorte, en lui disant, mais oui, ça je le sais. Il va en résulter, bien sûr, que par suite de l'amour du transfert, elle va lui apporter tous les éléments qui vont confirmer ce qu'il vient de lui dire, bien sûr, mais aussi le fait que dans les jours qui vont suivre, le symptôme va augmenter, c'est-à-dire la rhinite purulente augmente, et il y a une interruption dans la cure. Et assez rapidement, vous savez que ça a duré 3 mois, assez rapidement, tout va s'arrêter, et elle va revenir lui dire, ben, écoutez, maintenant je vais bien. Alors, c'est sûr, le fait que Freud... C'est ça la question, n'a pas été arrêté par quelque chose qui est présent dans le dire et non pas dans le dit de Lucière, que je voudrais attirer l'attention, parce que, et là je le dis à nouveau, ce qui nous manque bien sûr, c'est ce qui s'est passé en fait, dans un silence qui n'est certainement pas très long, mais il a dû se passer quelque chose d'important. Et c'est ça notre expérience, c'est ce qui se passe à certains moments dans le transfert. Est-ce que nous pouvons être récepteurs d'un autre savoir que le savoir à ascendance imaginaire qui se déploie, qui fait que l'on comprend, qui fait qu'on suit l'histoire? C'est ça la question. Et cet autre savoir, qui si on suit Lacan, en fait est deux ordres, c'est le savoir inconscient, et c'est le savoir dans le réel. Alors c'est assez compliqué. On va dire savoir inconscient, c'est-à-dire le savoir à ascendance symbolique. Le savoir dans le réel, c'est quelque chose c'est quelque chose dont on va un petit peu parler ce soir, dans la mesure où ce qui est important, c'est de le prendre un peu quand il montre le bout de son nez, parce que c'est quelque chose qui apparaît et ça dit immédiatement et ça disparaît. Autrement dit, est-ce que il est possible, il nous est possible d'entendre quelque chose qui est de l'ordre d'une jouissance, ouïr, quelque chose qui s'entend, qu'on dise reste oublié derrière, qu'on dise reste oublié derrière ce qui se dit dans ce qui s'entend. Qu'est-ce qui s'entend? Qu'est-ce qui s'entend? Voilà la question. Et donc, toute la question est là, et après avoir parlé avec Alain de notre prochain congrès, et lui dire que je ne savais évidemment pas, parce que ça s'est décidé il y a 3-4 semaines, là, je ne savais pas que j'allais rencontrer toutes ces questions-là chez un homme qui a vécu à peu près un siècle avant Freud, qui s'appelle Marie-Jean-Antoine Nicolas Carita, marquis de Condorcet. Alors c'est un peu ce que je voudrais commencer à aborder ce soir, c'est à vous proposer cette scène, cette fiction de rencontre entre Condorcet, le psychanalyste, dans cette dimension du discours. Et là, je suis un peu ce que dit Lacan. Vous savez, Lacan, à un moment, il dit dans son séminaire en 1974, « Finalement, moi, j'ai commencé par être très sensible pour essayer de cerner un peu ce qu'est l'inconscient, ce qu'est la dimension de la parole, fonction et champ, etc. » Et puis là où j'en suis maintenant, souvent on ne remarque pas ces petits trucs-là parce que c'est sur une ligne, hein, comme ça, puis c'est tout. Maintenant où j'en suis, pour essayer d'aborder ça, c'est comment le corps et l'être sexué, ça marche ensemble. Pas sexuel, sexué, vous savez, une formule de la sexuation. C'est-à-dire sexué, ça veut dire que on définit l'homme et la femme par rapport au langage tel qu'il l'a défini. Hein, c'est pas du tout le fait d'être sous la bannière homme et sous la bannière femme. C'est-à-dire qu'on en arrive à définir, si on peut parler de ça, nous, part féminine chez tout être parlant, la part féminine, pour autant que c'est justement cette part féminine qui permet, sans doute, dans la mesure où elle nous met en direction de cette autre jouissance que la jouissance phallique, qui est tournée, qui nous met en jouissance vers le fait d'entendre. Et du coup, se pose, qu'est-ce que la voix, bien sûr, puisque la voix, si on sort la voix du sonore, de ce qui s'entend, qu'est-ce que la voix ? C'est-à-dire, qu'est-ce que le son, pour autant que le son ne se réduit pas au sonore, et qu'est-ce que le corps, évidemment, bien sûr, et comment l'être parlant arrive à se débrouiller avec, on va dire, ses jouissances, pour autant que celui qu'on va appeler l'homme, alors là, quand on dit l'homme, c'est celui qui est sous la loi phallique. Comment l'homme va arriver à se débrouiller avec ce chancre qui est l'inconscient, pour autant qu'il est creusé, qu'il est échancré, comme il le dit, et comment une femme, pas la femme, une femme, elle, qui est, je cite, beaucoup plus aérée que l'homme par rapport à ses jouissances, va pouvoir, à un moment dans le discours, comment ça va pouvoir se rencontrer ? C'est ça qui me semble, c'est là où me semble-t-il, conduit l'enseignement de Lacan, notamment, c'est-à-dire qu'il prolonge Freud au-delà de tout ce que l'on peut savoir, des limites de Freud, et c'est de cette question-là, c'est de ça que je voudrais vous entretenir avec cet homme... très particulier, je dirais inclassable, c'est-à-dire que je comprends très bien que Robert Elisabeth Badinter fasse un schéma de Condorcet comme ça, qui est un schéma compréhensible, parce que si on le considère sur un mode politique, il y a des choses tout à fait intéressantes, mais comme je suis psychanalyste, c'est pas ça qui m'intéresse, même si je vais en dire un mot, c'est qu'est-ce qui a pu se passer dans la vie de cet homme, à un moment, c'est ça, qui fait que, alors bien sûr, ça c'est la dimension politique, il est le philosophe, l'encyclopédiste, philosophe des Lumières, qui a participé à la Révolution, ça c'est une vraie question, mais qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas passé par la guillotine ? Il n'y en a pas beaucoup qui ne sont pas passés par la guillotine. Premier point, vu l'engagement qu'il avait. Et deuxième point, qu'est-ce qui fait que, à un moment, il est dans un état très particulier. Et cet état, à mon avis, il le dit dans un titre qu'il est en train d'écrire. Cet état, c'est esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. Il fait une esquisse. Alors, une esquisse, qu'est-ce que c'est qu'une esquisse ? Je vous cite ce que pouvait en dire, évidemment, quelqu'un qui connaissait bien Diderot, au salon de 1775. Les esquisses ont communément un feu que le tableau n'a pas. Esquisse d'un tableau. Je crois que c'est... Ce que je vais essayer de dire, ça illustre tout à fait ce qu'on a mis art, psychanalyse, politique. Mais comment ils se rencontrent, ils se télescopent les trois, pas du tout l'art, la psychanalyse, la politique. Les esquisses ont communément un feu que le tableau n'a pas. C'est le moment de la chaleur de l'artiste, la verve pure, sans aucun mélange de l'après que la réflexion met à tout. C'est l'âme du peintre qui se répand librement sur la toile. La plume du poète, le crayon du dessinateur habile ont l'air de courir et de se jouer. Je vois dans le tableau une chose prononcée. Combien dans l'esquisse y supposais-je de choses qui sont à peine annoncées ? Et faisant écho à ça, Malraux, Les voies du silence, l'esquisse était en principe un état de l'œuvre antérieur à son achèvement, à l'exécution de cet état et surtout. Mais il existait un type particulier, celle où le peintre, ne tenant pas compte du spectateur et indifférent à l'illusion, avait réduit un spectacle réel ou imaginaire à ce par quoi il devient peinture, tâche, couleur, mouvement. Le croquis est une note, certaines esquisses sont une fin. Et parce qu'elles sont une fin, il y a une différence de nature entre elles et le tableau achevé. Achever certaines esquisses ne fut nullement les terminer. Celles qu'avaient choisi les plus grands pour les conserver, celles de Rubens, le jardin de Velázquez, ne nous donnent pas l'impression de représentation inachevée, mais d'expression plastique complète que leur soumission à la représentation affaiblirait et peut-être détruirait. L'art entrait en conflit avec le fini et la frontière entre l'esquisse et le tableau commençait à perdre sa précision. Ce que je veux dire, c'est que alors j'ai raconté comment il en arrive là, bien sûr, puisque c'est au moment où, sous le coup d'un arrêt d'accusation, il doit se cacher. Nous sommes en juillet 1793 et il doit se cacher et il se réfugie chez Madame Vernet. Donc ça, c'est l'histoire. Alors, ce que je voudrais, c'est vous donner un peu d'éléments, parce qu'il faut bien donner un peu de soupe, comme ça, et puis de mousse, hein, comme la candide, la mousse, il faut bien du sens et de la signification. Mais je voudrais vraiment pointer des choses, pour moi, et essayer de vous transmettre ce qui est en jeu pour rendre compte de cet artiste qu'est Condorcet à ce moment-là. Alors, Pour arriver à ce moment particulier, je vais aller très vite, nous nous situons à l'automne 1791, c'est le début de la législative, qui va durer à peu près un an, un peu de choses près, et pendant le début de la législative, Condorcet est ascendant, c'est-à-dire que son pouvoir augmente, il est très connu évidemment, il est connu bien avant la Révolution, puisqu'il est sociétaire de l'Académie des sciences, il est sociétaire de l'Académie française, de l'Académie de Saint-Pétersbourg, de l'Académie de... Enfin, il est connu, il a un certain aura. La seule chose, c'est qu'il ne peut pas parler en public. Il a une plume, comme il dit, il a une plume, mais dès qu'il s'agit pour lui de monter à la tribune, il a une voix qui ne porte pas, et en fait, on ne l'écoute pas. Donc ça, c'est une question vraiment qui est au cœur. Alors, je ne vais pas trop expliquer ça par des données psychologiques, mais je crois que c'est important. Bon, c'est une première chose. Mais je voudrais essayer de vous rendre ça important à un moment précis, où il entend quelque chose de l'autre. C'est ça qui m'intéresse, dans la voix de l'autre. Alors, donc, législative, fin 1791, jusqu'à l'automne 92, donc une année, et après c'est la convention. Donc pendant la législative, il se passe un certain nombre de choses, il va y avoir, commence un certain nombre de difficultés avec Robespierre, c'est-à-dire qu'il va dire un certain nombre de choses, et alors va apparaître fin 92, 1792, apparaît donc dans la mise en place de la convention, le fait qu'il ne pense qu'à une seule chose, Condorcet, en homme réfléchi, responsable. Premièrement, il pense à une chose, c'est qu'il voit que dans l'Assemblée, il y a un conflit énorme entre les Girondins et les Montagnards. Alors, il dit qu'il faut absolument que ce conflit ne dégénère pas parce que il faut que la France arrive à se défendre par rapport aux attaques en dehors des frontières. Donc, il essaie de ne pas trop intervenir, surtout pour, dans cette perspective-là. Et on pourrait dire qu'il n'a qu'un souci, c'est le fait que pour lui, il faut absolument qu'il arrive à faire passer un projet qu'il a dans la tête, il en a déjà beaucoup écrit par rapport à ça, qui est celui d'une constitution. Donc, avec un certain nombre d'autres, il rédige une constitution. Alors, ce qu'il ne sait pas, évidemment, ce dont il ne prend pas la mesure, et c'est là, on pourrait dire, en homme politique, qu'il est un peu naïf, hein, mais on verra, on va voir un peu où ça va conduire. Il ne se rend pas compte que ce qui intéresse, finalement, tout le monde, au début de la Convention, c'est qu'est-ce qu'on va faire du roi. Donc, il n'y a que ça qui... La deuxième chose, c'est que les montagnards ne rêvent que d'une chose, c'est d'éliminer les Girondins. Et puis, l'histoire de la Constitution, c'est vraiment pas le problème des députés. C'est vraiment pas ça. Alors, il fait un projet, il le termine vraisemblablement fin décembre, et le 15 février, il monte à la tribune pour lire le projet de la Constitution. Dès qu'il a parlé, je ne sais pas combien de temps, mais peut-être un quart d'heure, enfin pas longtemps, il est obligé de s'arrêter, il ne peut pas continuer. Et c'est Barrès qui va lire la suite de ce projet tout à fait important. Et le lendemain, on va finir la lecture. Ce qui est important de remarquer, c'est que tout le travail qu'il a fait par rapport à ça, parce que c'est lui vraiment qui a mis beaucoup dans ce projet, ne va pas être reçu par les députés, pour les raisons dont je vous parle, c'est-à-dire que c'est vraiment autre chose qui est à l'ordre du jour, hein. C'est le roi et d'autre part la lutte entre le... Et puis alors surtout, il y a une chose qui est tout à fait importante, c'est que personne ne veut d'une constitution. Pourquoi ? Parce que s'il y a une constitution, la convention va disparaître. Donc, il faut que la Convention dure, et notamment pour les montagnards qui, progressivement, et notamment avec ce qui va se passer autour de la décision de la mort du roi, puisqu'il y a un conflit entre Robespierre et Condorcet. Condorcet propose que, bien sûr, les députés ne sont pas à même de décider de ce qu'il en est, de ce qu'on doit faire du roi. Lui, il a déjà expliqué qu'il est contre la peine de mort, donc il n'y a pas question que le roi soit mis à mort, mais les députés ne le peuvent pas. Il faut désigner des hommes particuliers qui connaissent ce qu'est la loi et qui définissent ensemble, on va dire des magistrats, qui définissent ensemble ce qu'on va faire du roi. Et Robespierre, deux jours après, explique qu'effectivement, l'Assemblée n'a pas décidé du sort du roi, elle n'est pas faite pour ça, mais il faut que l'Assemblée prenne une décision par mesure de salut public. Ce qui veut dire que le roi doit être... On doit décider du roi sans jugement. C'est-à-dire que d'un côté, Condorcet en homme tout à fait respectueux des lois définies, qu'il faut décider du roi à partir des lois, et d'un autre côté, Robespierre pousse du côté de faire disparaître le roi, apparemment, sans jugement. Il y a donc quelque chose, et c'est effectivement Robespierre, parce que derrière ça, il y a les montagnards, c'est les montagnards qui vont décider que le roi va être exécuté, etc. Donc, voilà donc le souci, et ça a lieu, vous savez, c'est en décembre, c'est quand il finit la Constitution, et le roi va être exécuté en janvier. Donc ça c'est un premier élément qui laisse Condorcet. Mais alors, dès qu'il a présenté la Constitution le 15 février, dans les jours qui vont suivre, aux Jacobins, d'emblée, il est... Enfin, c'est vraiment de la politique, là, on va dire. Il est décidé qu'en aucun cas, cette Constitution-là ne doit passer et qu'il faut en faire une autre. Les Jacobins devront élaborer qui doit le faire, élaborer un projet, ce qu'on va mettre dedans, et dans les mois puisqu'il y a 2 mois durant lesquels on a reporté la décision sur le projet de constitution qu'a présenté Condorcet. Dans les 2 mois qui viennent, il faut absolument trouver une autre solution pour qu'il y ait une autre constitution qui soit définie. Et tout ça, effectivement, va se développer de telle façon que en mai, juin, et le 24 juin, est votée cette autre constitution. Et tout ça révolte beaucoup Condorcet. Il y a donc la constitution, la mort du roi, comme ça s'est passé. Il trouve ça scandaleux que le roi, il n'est évidemment pas du tout pour le retour de la monarchie. Il a compris, lui, que dès que le roi est parti, qu'il a été à Varennes, en aucun cas, le roi ne doit revenir. Pour lui, c'est une logique mathématique, j'en dirai un mot tout à l'heure. Et va apparaître une troisième chose, c'est le 1er et le 2 juin, des policiers arrivent, entourent l'Assemblée et exigent que les députés qui sont là prennent position par rapport à 29 Girondins, autrement dit, décident leur condamnation. Et c'est évidemment quelque chose qui est absolument en dehors de toute décision qui respecte une loi. Et ces trois éléments-là vont faire que Condorcet, pris dans un tourbillon, ne peut pas ne pas intervenir. Alors, il sait qu'il ne faut pas qu'il monte à la tribune. Parce que s'il monte à la tribune, ce sera une catastrophe. Donc, il prend sa plume et il écrit. Et il écrit un article intitulé « Aux citoyens français pour la nouvelle constitution », à propos de la nouvelle constitution. Et notamment, dans cet article, il y a 2 points importants. Le premier point, c'est qu'il dit que ceux qui semblent aduler et se référer au peuple, il vise évidemment Robespierre, en fait ne pensent qu'une seule chose, c'est le manipuler, c'est-à-dire que ces gens-là détestent le peuple, première chose. Ça peut encore passer. Mais la deuxième chose, il va dire que le projet de cette constitution, qui a été fait rapidement, n'importe comment, vise à faire que la monarchie revienne. Ce qui est une calomnie. C'est, évidemment, ça n'est pas du tout dans le projet. Et à partir de là, quelques jours plus tard, à l'Assemblée, un nommé Chabot, un montagnard, un ex-capucin, arrive en tenant dans sa main une lettre et dit « Citoyens, j'ai eu connaissance, et vous aussi, du fait que parmi vous, il y a un traître, etc. Et je peux vous dire qui c'est, parce que j'ai dans la main une lettre. Jamais personne ne m'a demandé de lire la lettre, ce qu'il y avait sur la lettre. J'ai dans la main une lettre où on retrouve les mêmes phrases que ce qui est dans cette déclaration aux citoyens dont j'ai parlé. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'effectivement, il ne l'avait pas signé, c'est-à-dire que c'était anonyme, et il expliquait que l'auteur n'avait pas signé parce qu'il savait que s'il avait signé, donné son nom, il risquait gros. Et tout peut penser qu'à ce moment-là, il était quand même dans un état particulier, Condorcet, parce que, en fait, il réagit comme dans l'Ancien Régime. Il réagit comme s'il suffisait de ne pas mettre son nom pour ne pas aller à la Bastille, alors qu'on n'est plus du tout dans ce mode-là. On est complètement dans un autre univers. Donc, Chabot demande qu'on décide, que soit décidé contre Condorcet, une arrestation, c'est ce qui est voté, et à la suite de ça, donc Condorcet va se cacher, puisque immédiatement on débarque chez lui, rue de Lille, etc., il n'est pas là, etc. Bon, il a été tenu au courant par des fuites, et il peut se cacher. Bon, ça c'est l'histoire, ça c'est ce qu'on nous racontait. Ça, c'est ce que Freud et Lucière, finalement, d'une façon ou d'une autre, se racontent. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le discours. Alors, c'est-à-dire, c'est ça la rencontre entre le psychanalyste et, on va dire, le philosophe ou Condorcet en question. Alors, qu'est-ce qui se passe à la suite de ça? Bien sûr, il se cache. Et Condorcet, on connaît tous ça, est toujours dans le même truc. C'est-à-dire, il n'a qu'une idée, c'est faire ce qu'il va appeler un fragment de justification. Il est toujours dans le même truc, rien ne s'est arrêté. Il est dans le fait qu'il faut qu'il arrive à prouver que ça n'est pas quelqu'un qui doit être arrêté. Ça n'est pas un escroc, ça n'est pas quelqu'un qui veut du mal. Et alors là, comment est-ce qu'il va pouvoir s'arrêter? C'est ça la question. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, parce qu'il y a un moment, il y a un moment où, effectivement, quelque chose le quitte. Et c'est à ce moment-là qu'il commence cette esquisse. C'est-à-dire qu'il change complètement, je dirais, on pourrait dire de discours. Alors, ça a lieu, ça m'a beaucoup intéressé parce que ça m'a un peu rappelé ce que j'avais dit de ce qui se passe à un moment entre Constance et Mozart, quand il s'agit d'écrire l'ouverture. Sa femme, Sophie, on est en 93, fin 93. En 86, il a épousé Sophie Dubrouchy, qu'il aime beaucoup, qui a 20 ans de moins que lui, qui est très, très belle, qui a beaucoup d'esprit, qui a ouvert un salon. C'est la période, c'est cette période-là. Et elle vient le voir régulièrement avec quelques amis. Et sans doute, là c'est pareil, on n'a pas les choses importantes, je dirais. Sans doute, elle voit sur le visage, sur le corps de cet homme, ce ravage. Le fait qu'il est figé, qu'il est pris dans quelque chose, tout ce que le réel peut fixer, figer. Et à un moment, elle lui dit, mais je ne sais pas comment elle lui a dit, mais enfin, bon, on peut penser qu'elle lui dit, mais est-ce que tu te souviens qu'il y a un an, il y a deux ans, tu n'arrêtais pas de me parler d'un projet. Est-ce que tu te souviens de ça? Et ce projet, c'était quelque chose qui était pour toi tout à fait important. Je suis sûr que tu l'as dans la tête. Tu n'as pas besoin de livre. Tu es caché, là. Il n'y a pas besoin de livre. Tu l'as dans la tête, ce projet. Et quand elle va publier ce projet après la mort de Condorcet, donc en 95, elle va dire que, effectivement, elle va mettre une petite note en disant que ceci est lié à quelque chose que Condorcet a fait sur la prière de sa femme. Parce que c'est elle qui va publier ça. Alors je voudrais essayer, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'essayer de dire quelque chose sur ce qui a pu se passer à ce moment-là. Parce que je pense qu'il y a un moment tout à fait particulier où la part féminine de Condorcet a pu monter sur la scène et dialoguer avec la part masculine, pour autant que, alors une femme bien sûr, pas n'importe qui, il a entendu dans la voix d'une femme quelque chose qui est ce rapport aéré avec la jouissance dont parle Lacan. Et ça c'est insaisissable, on ne peut pas dire ce que c'est bien sûr. Et là il y a sans doute un moment particulier où le savoir inconscient donne cet accès au pur réel. Alors bien sûr, quand on lit le tableau, souvent d'ailleurs, j'ai regardé, il y a des fautes. On fait souvent esquisse du tableau historique. C'est pas comme ça le titre, c'est esquisse d'un tableau historique. Et en fait, quand on lit, vous pouvez trouver ça sur Internet, ça c'est facile à trouver ça, puis lire tout. Qu'est-ce qui est esquissé? Parce que c'est ça le problème, c'est pas de comprendre tout ce qui est dit. Je crois que, alors il y a une supposition un peu folle qui est la mienne, c'est que on sait que c'est ça qui se passe dans le transfert. On sait qu'il est allé jusqu'au bout, quoi. Il est allé jusqu'où on y va du côté de la répétition et d'un certain déchaînement. Et même quand il est amené à se cacher, de toute façon, ce n'est pas le problème. Il continue à être tordu, travaillé par quelque chose, par le fait qu'il n'arrête pas de penser. On peut penser qu'il dormait rien. Il était complètement pris par ce fragment de justification. Il ne pouvait pas accéder à la justesse. Il était dans la justice. Et il voulait prouver à des gens sans justice qu'il y avait une erreur, finalement. Alors que c'est vrai, c'est vraiment pas ça le problème. Donc, il aura fallu, parce que c'est dans l'après-coup qu'on peut dire, il aura fallu qu'un jour, c'est ça finalement, la rencontre, c'est ça une façon de parler d'un autre discours, d'une autre jouissance, il entende quelque chose qui passe par le corps, et qu'à ce moment-là, quelque chose l'habite, et en fait, ce qu'il écrit, lui, à ce moment-là, c'est en fait ce qu'il écrit. Ce qu'il écrit, c'est ce qui l'écrit. C'est-à-dire qu'il décrit, en fait, en quelque sorte, c'est ça une esquisse, c'est une sorte de... C'est un trait, c'est un écrit. Il décrit quoi? Il décrit quelque chose qui est complètement subversif pour le moment, pour la période. On est dans la dégénérescence, on est dans tous ces moments-là, on est 100 ans avant Freud. Hein. Et il décrit cette chose absolument impensable que l'être humain est perfectible. Ce qui est complètement... Hein. C'est quelque chose qu'il a trouvé, lui, à partir de ce qu'il a rencontré dans les mathématiques. Alors, je ne vais pas développer ça, je vais donner, je dirais, les quelques coups de crayon qui sont dans cette esquisse. Pour un peu comprendre que, vraiment, il n'avait rien à foutre dans cette histoire d'essayer de se bagarrer avec Robespierre et compagnie, mais rien du tout, rien. Alors, qu'est-ce qu'il décrit? Alors, il est allé, pourquoi y aller? Moi, je pense qu'il a été un peu fasciné par ces gens qui montent à la tribune, qui savaient parler. Et lui, il avait une telle... Il ne pouvait pas le faire. Bon, enfin, on en parlera au colloque de tout ça. On essaiera de voir comment on peut mettre ça dans une intervention de cours d'Orsay. Mais... Je crois que, en fait, ce qu'il dit à ce moment-là, il dit quoi? C'est relativement simple. Il démarre, on pourrait dire d'emblée, très fort, l'origine du savoir. L'origine du savoir, il connaît très bien Condillac, il l'a rencontré dans les salons. Bien sûr que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est lié à des sensations. Ça, c'est Condillac. Mais ces sensations, c'est ça, alors là, c'est là qu'on va arriver. On pourrait dire Freud et Lacan. Hein, ces sensations, elles ont à être prises en charge. Prises en charge par ce qu'il appelle la raison. C'est la raison mathématique. Par quelque chose qui, en permanence, va faire que tout ce qui est reçu va être immédiatement et sans cesse retravaillé. On n'est pas du tout dans quelque chose de passif. La raison, c'est ce récepteur qui instruère. Les montagnards, ils vont parler d'éducation. Lui, il parle d'instruction. Instruere en latin, c'est disposer en couches. Ce n'est pas le duce de l'éducation. C'est disposer en couches. C'est-à-dire que chaque fois que quelque chose de nouveau arrive, toutes les connaissances sont remises en jeu, en quelque sorte. Pour que de nouveaux rapports... C'est vraiment un tableau de peintre. C'est vraiment une esquisse. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc c'est ça. Pour lui, la raison, c'est pas le culte de la raison. Pas du tout ça. La raison, c'est quelque chose d'insaisissable. Et du coup, bien sûr, à l'origine, il y a donc, bien sûr, cet extérieur radical. On pourrait, si on sort du sensualisme, on y voit déjà la dimension de l'autre, évidemment. Mais pas au sens, évidemment, des perceptions sensorielles. Il y a cet extérieur radical et il y a ce récepteur qui est là, avec la raison, c'est ce qu'il appelle la raison, on pourrait l'appeler autrement, évidemment, et ce qu'il importe, c'est que au un par un, comme on dit nous, les psychanalystes, ceux qui sont détenteurs du savoir doivent transmettre ce qu'il appelle... les notions élémentaires. Autrement dit, la question, ce n'est pas la quantité de savoir. C'est qu'il y a une inégalité de savoir. Il y a une inégalité entre les humains, au niveau intellectuel, il n'y a pas du tout à aller là contre. De même qu'il y a une inégalité physique. Donc l'égalité, elle n'est pas du tout là. Elle n'est pas du tout dans le fait qu'il faudrait que tout le monde sache la même chose, que ce soit beaucoup ou pas beaucoup. L'égalité, elle est dans le fait que si nous avons les connaissances élémentaires, c'est-à-dire ce à partir de quoi nous allons pouvoir avoir un jugement critique qui puisse se développer par rapport à tout ce qu'on va nous dire, tout ce qu'on va nous proposer comme loi. On va pouvoir prendre position et dire, parce que c'est ça qui est dans cette constitution, dire aux représentants qui sont des représentants, on va dire, régionaux, comment quelque chose ne va pas dans ce qui nous est proposé. Comme autrement dit, il y a ce remaniement permanent dans la constitution elle-même, dans le fonctionnement politique. Et ça, c'est lié au fait qu'il l'a trouvé, lui, dans le fonctionnement de l'humain. Donc c'est ça qui est en jeu. Et l'égalité, c'est lié au fait que nous sommes tous égaux par rapport, on va dire, au savoir, on va dire à ce moment-là par rapport à la nature, par rapport aux lois de la nature. C'est-à-dire que, bien sûr, Newton en sait un peu plus que quelqu'un qui est un citoyen simple, on va dire. Mais tout le monde subit la loi de la gravitation universelle. Newton, comme tout le monde. Ce n'est pas parce qu'il sait, il a trouvé les principes de la loi de la gravitation universelle qui ne va pas la subir. Donc l'égalité, elle est là. Elle est là. Elle est là. Et donc la citoyenneté, qui était quelque chose qui était évidemment, vous savez, dès qu'on ouvrait la bouche, c'était citoyen à citoyenne. On en parlait récemment à un groupe de travail, là. Et le tutoiement et tout ça. C'est pas ça l'important. Parce que ça sert à quoi? Ça sert à mettre quelqu'un en accusation. C'est que la citoyenneté est importante parce qu'il faut que le pouvoir politique, bien sûr, s'adresse aux citoyens. C'est ça. Le citoyen, ce n'est pas ceux qui étaient complètement ignorants auparavant. C'est ceux qui en connaissent un petit bout maintenant. Mais ce n'est pas un but. C'est un temps indispensable pour que chaque être parlant, chaque citoyen, acquiert de quoi avoir un certain jugement critique. Voilà, en gros, les éléments qui sont les traits qui sont dans cette esquisse. Et je suppose, j'en dirai un mot avec Casanova la prochaine fois, puisque Casanova finalement se retrouve exactement dans la même position, c'est qu'à la fin de sa vie, Casanova se trouve dans un château et il écrit « Histoire de ma vie ». Et on pourrait dire que Condorcet, quand il est là, il écrit « Histoire de ma vie ». Il écrit ce qu'est l'histoire au sens où il donne les traits importants de ce que peut être, de ce qu'a pu être dans sa vie, autre chose que tout ce qu'on pourra raconter sur les jésuites ou des jésuites de Reims où il a été, etc. On pourra tout expliquer par les brimades sans doute qu'il a eues. Ce qu'il retient de tout ce qui est institué, donc la cléricature, le clergé, l'Église, c'est que, et ça effectivement, on ne peut pas lui donner raison, mais je ne lui donnerai pas raison, je ne lui donnerai pas tort. C'est que ça vise à ce que la raison soit arrêtée. C'est-à-dire que ce que j'ai essayé de vous développer, là, du côté de cet esprit critique qui se développe, ce qui était enseigné par le biais des croyances et des dogmes, comme il dit, ça visait à ce que c'était un obstacle au développement de la raison. C'est comme ça qu'il en parle. C'est des choses certainement qu'il faudrait discuter, mais enfin, c'est comme ça que lui, il l'a vécu. Et donc, tout ce qui est institué comme tel, figé, là, ça me touche beaucoup, les psychanalystes, institutions, tout ce qui est institué, figé, et qui obéit à des lois qui sont immuables, eh bien, justement, renvoie de toute façon au fait que, d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas d'évolution possible. Et il va reprocher beaucoup, effectivement, notamment en Montagnard, cette cléricature laïque. Il va traiter Robespierre de faux curé, hein, et dire que, finalement, il faut faire très attention avec les lois parce qu'il importe de ne pas rétablir l'état de la loi. Donc, je vais m'arrêter là ce soir.